Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Voilà, nous avons entamé il y a 2 semaines une réflexion sur donner. Donner, mais combien? Donner, mais comment? Et donc, il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, nous avons regardé, nous avons eu un plan d'économie de Dieu. Comment Dieu organisait les finances pour son peuple. Mais non seulement on a vu que dans l'Ancien Testament, il pourvoyait à son peuple, mais qu'il pourvoyait dans toutes les directions, puisqu'il prévoyait aussi pour les sacrificateurs, qu'il pourvoyait aussi pour les fonctionnaires, qu'il pourvoyait aussi pour les veuves, les orphelins et les étrangers. Donc ceux qui n'ont pas, qui n'étaient pas là ou qui ont envie peuvent retourner sur le site. J'ai vérifié, le message y est encore. Et là, évidemment, j'avais introduit cette idée, la dernière fois, de prendre du temps, se réfléchir sur comment donner. Et le livre des Actes, au chapitre 20 et verset 35, nous dit ceci. C'est Paul qui parle, Actes 20, verset 35. J'ai choisi du rouge, là, c'est pas terrible. En tout, je vous l'ai démontré. C'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà un beau verset qui nous enclenche, qui nous encourage à pas simplement recevoir, mais à donner. Offrir, donner, c'est pas abandonner. C'est pas laisser partir malgré tout. Mais c'est donner. Offrir et donner, ce sont des mots qui jalonnent, qui parcourent, qu'on trouve dans bien des pages de l'Écriture. Ce sont des actions qui font partie de notre vie quotidienne. On reçoit chaque jour et on donne chaque jour. On donne et on reçoit. La vie chrétienne n'échappe pas à cette loi. L'argent occupe une place si importante qu'il peut être un serviteur pour notre bien et celui de l'œuvre de Dieu, ou être un tyran si nous nous y attachons au point de devenir avares. L'argent peut être un serviteur, quelque chose qu'on peut bien utiliser, ou au contraire un tyran qui nous capte, qui nous fait de nous des gens qui veulent ramasser et accumuler. J'ai pas l'impression que ça soit exactement notre population ici. Constat. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, et la Bible dit parce que quelqu'un a donné. Le plus grand capital qu'il avait, son fils. Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a donné son fils unique alors que nous étions encore ennemis. Il n'a pas attendu, c'était pas le cadeau de remerciement parce que nous étions devenus gentils, mais pour constater déjà que nous sommes au bénéfice du don de Dieu. Un don qui était très grand. L'offrande biblique n'a rien à voir avec les cotisations de la société, ni avec les collectes pour les œuvres humaines charitables en dehors de la foi chrétienne. Elles ont leur valeur, ces collectes. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas y participer. Bien au contraire. Mais nous sommes en train de réfléchir à savoir comment l'offrande que nous devons à Dieu peut être distribuée. L'offrande se donne à Dieu, elle lui est consacrée. C'est pour lui. On le fait parce que Dieu a changé notre vie. On ne le fait pas, on l'a vu, je ne reviens pas trop, parce que nous méritons quelque chose ou que nous allons gagner quelque chose. Nous le faisons selon les instructions de sa parole. Et on a parcouru la dernière fois Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, jusqu'à 1 Samuel et jusqu'à courtement Malachie, le dernier prophète. C'est donc un privilège pour chaque chrétien. Donner, c'est un privilège. Parce que, en le faisant, chacun vit sa foi et chacun prend part à l'œuvre de Dieu et prend part à donner à celui qui nous a donné. Dans le premier livre des Chroniques, dans l'Ancien Testament, voilà ce que David dit à Ornan à propos de l'offrande. Il dit « Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai rien à l'Éternel de ce qui est à toi, et je n'offrirai point un sacrifice qui ne me coûte rien. » L'offrande, le don, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est pas quelque chose que nous avons en plus. C'est pas quelque chose qui ne va pas entamer notre capital. Et j'ai trouvé que ce passage des Chroniques de David nous montre bien, hein, déjà, et on avait vu la dernière fois aussi ce passage où David disait « Mais qui sommes-nous en fait pour t'offrir ces dons ?» Alors ce matin, j'ai essayé de réfléchir, c'est un peu petit, voilà. Comment donner ? Le premier rond, vous ne le voyez pas, c'est marqué « avec méthode ». Avec méthode. Le deuxième rond que nous verrons, c'est avec spontanéité. Le troisième rond, c'est avec joie. Le quatrième rond, c'est avec cœur. Le cinquième rond, c'est avec zèle. Le sixième rond, c'est avec soin. Et le dernier rond, c'est avec discrétion. Avec méthode, avec spontanéité, avec joie, avec cœur, avec zèle, avec soin, ou avec, et c'est pas ou, c'est avec discrétion. Et j'aurais pu faire un grand rond pour enrober tout ça. Avec méthode. Que chacun de vous, dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 2, « Mette à part chez lui ce qu'il pourra. » On utilise ce verset un peu à profusion, souvent, en disant « Je donne ce que je peux. » Mais souvent, le « peu », il est le résultat du reste. Or là, le texte, il nous dit de mettre à part, et on a vu dans les textes de l'Ancien Testament que mettre à part, c'était de mettre à part le meilleur. Avec méthode, ça veut dire que nous allons organiser, ou que Dieu nous encourage, et on a vu dans son économie, nous encourage à mettre à part une partie de notre salaire pour lui donner. Paul recommande de mettre à part. Le mot mettre à part, c'est quelque part sanctifier. C'est le même mot, saint, mis à part pour servir. Nous pouvons sanctifier l'argent, sanctifier les produits que Dieu nous donne en les mettant à part pour son service. Cela veut dire que ce qui est mis de côté pour Dieu, on n'y touche plus. C'est la part de Dieu. Cela lui appartient. C'est un domaine un petit peu difficile, un peu technique. Et j'avoue, je rentre rarement dans ce sujet-là, mais c'est un sujet où nous avons besoin d'apprendre. En fait, nous sommes dans notre économie. Nous sommes souvent amenés à d'abord mettre les factures devant, de mettre les choses qui pourraient arriver, donc la prévoyance, et à la fin de dire, bon, il reste quoi ? Et ce quoi, je vais le donner, éventuellement, je vais en donner une partie à Dieu. On a vu dans les textes la dernière fois que ce n'était pas exactement comme ça que Dieu avait prévu les choses, et que dans son économie, il ne voyait pas qu'on allait donner le reste, mais qu'on allait mettre au début. C'est son œuvre, mise à part. Ça lui appartient. Alors là, je m'aventure en ouvrant un compte spécial. Voilà la part que je mets pour Dieu. De dire dès le début du mois, cette partie-là, je n'y touche pas. La tirelire, le cochon. En principe, c'est symbolisé par un cochon, la tirelire. Hein, où je mets de l'argent dedans et je ne casse pas la tirelire parce qu'il faut que je l'aie pour le mois d'après. Mais au moins, je la démonte en mettant l'argent dedans aussi. Prélèvement, en demandant, voilà, des virements. Nous avons à notre disposition plein de méthodes. Et ça, ce sont quelques méthodes. Mais des méthodes simples pour nous montrer quelle est l'importance, quelle importance cela revêt devant Dieu, de mettre à part. Mettre à part, c'est délibérer. C'est en fonction, on l'a vu tout à l'heure, selon mon cœur. C'est selon ma relation avec Dieu. Vous savez, on a, en fin d'année, les éboueurs passent, les pompiers passent, le service de la mairie passe, tout le monde passe et on vient à la porte. Et puis on tape et on dit, voilà, vous ne pouvez pas donner quelque chose pour. Et souvent, je connais des amis qui mettent à part une partie de cette somme, une petite somme de côté, disent, moi je distribue sur les 4 ou 5. Et quand en arrive un autre, il dit, ben moi j'ai déjà tout donné. Mais quelque part, Dieu ne vient pas à chaque fois à la porte en disant, qu'est-ce que tu es prêt à me donner ? Dieu, il est dans notre présent, dans notre vie de tous les jours, il nous donne. Et il attend de nous que nous prenions cette décision de mettre à part la somme que nous voulons lui donner, la somme qui lui revient. Donc, je vous laisse faire avec la méthode que vous avez. Vous avez peut-être même une meilleure solution que la mienne. Mais en tout cas, que nous puissions identifier nos désirs de servir Dieu. Chacun peut donc employer une façon différente, ce qui est important, ce qui importe là dans ce premier point, c'est de mettre à part et de dire cette somme-là, je n'y touche pas, ce que nous pouvons pour notre Dieu. La part de Dieu étant mise de côté, elle lui est consacrée et nous n'avons pas à la reprendre pour nos besoins personnels. Alors le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est avec spontanéité. Spontané, ça veut dire que, vous avez vu la dernière fois, je peux prendre dans cette somme pour répondre à des besoins urgents, prévoir l'imprévisible. Un jour, on avait eu un gros problème avec mon épouse et j'avais été voir le conseil de mon église et je lui avais dit, écoutez, on a des petits problèmes financiers. Et donc, il m'avait mis dans les bras de notre trésorier, qui était un homme excessivement organisé, et ce trésorier de me dire, mais Jean-Claude, tu n'as pas prévu l'imprévu. Ben, j'ai dit, non, sinon je ne serais pas là. Il m'a dit, ben, faudra que tu prévoies l'imprévisible. J'ai dit, là, j'ai du mal. Mais Dieu nous dit de donner avec spontanéité face aux besoins urgents. Nous avons des frères et sœurs, nous pouvons être nous-mêmes touchés par l'urgent, par ce que nous n'avons pas envisagé. Dans Tite, au chapitre 3, Paul encourage son jeune serviteur de fournir à Zénas, le spécialiste de la loi, et à Apollos, ce dont ils ont besoin pour leur voyage, afin que rien ne leur manque. quand on a des frères et sœurs qui sont là, quand on envisage d'aider des gens, de donner avec spontanéité, générosité pour ceux qui en ont besoin. On peut le prévoir, certes, mais souvent ce sont des besoins qui arrivent plus par surprise. En demandant à Tite de pourvoir au voyage de ces deux hommes, Paul réclamait aussi que leur soit accordée l'hospitalité pendant leur séjour et qu'ils soient pourvus à tout ce dont ils auront besoin pour leur voyage. J'ai été au bénéfice souvent d'églises que je visitais sur un long périple et qui finalement accordaient l'hospitalité ou pourvoyaient à la suite du voyage. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, qui sont un peu plus sédentaires, qui bougeons peut-être moins, de pourvoir à ceux qui, pour l'œuvre de Dieu, se déplacent. Pour l'œuvre de Dieu, vont de ville en ville, de village en village, laissent leurs biens. De pouvoir penser, pas simplement à les avoir à notre table, mais de dire, de quoi aurez-vous besoin ? Et là, Paul le dit à son serviteur, Tite, pourvois avec soin. Ne les nourris pas simplement, mais vérifie que sur la route, ils ne manqueront de rien. Avec spontanéité, avec joie. Donner avec joie. C'est quelque chose, c'est pas dans nos gènes. C'est pas génétique de « Ah !» Vous voyez, on imagine donner avec joie, vous savez, on sort les billets de banque et allez, non, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit de ne pas faire des bêtises avec notre argent. Mais de le faire avec joie, sans regret. De participer avec un élan, ça, je veux vraiment y participer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, ah, quand je vais donner ça, ça va me manquer. Ah, vous savez, actuellement, si vous n'avez pas remarqué, c'est la Coupe du Monde. Ceux qui ont réussi à pas en entendre parler, voilà, c'est fait, c'est trop tard. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on parle dans le football ou dans le sport, quand on parle d'argent. Et nous, chrétiens, on dit « Ah, oh, si seulement j'avais le salaire de Lionel Messi. » Sur votre feuille de déclaration d'impôt, ça va prendre une certaine éternité pour que vous puissiez avoir ne serait-ce que son salaire annuel. Mais mes amis, pardon, oui, mais déjà mensuel, mais annuel. Mais ce qui est important, mes amis, c'est pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous avons qui compte. On peut toujours espérer avoir plus, et Dieu peut nous donner plus. Mais avec ce que nous avons, nous pouvons aussi avoir de la générosité, de la spontanéité envers ceux qui en ont besoin. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie n'est pas misérable. La joie n'est pas triste. Donner, c'est pas cet acte qui... Oh, quelle tristesse. Tout cet argent que je n'aurai plus. Mais tout cet argent que Dieu va faire fructifier. Avec laquelle Dieu va pouvoir continuer de faire avancer son royaume. Avec joie. J'ai noté là que le paysan ne récolte pas la même quantité que celle qu'il a semée, mais beaucoup plus. J'entends par là la petite graine qu'il plante produit bien des choses. Et des fois, la somme que nous donnons à Dieu va permettre une multiplication de sa parole, de soins. Hein, l'effet indirect va aller bien au-delà de ce que nous voyons. Et je crois que c'est important de réaliser, de demander à Dieu la joie de pouvoir donner, de pouvoir participer. Je suis heureux de pouvoir participer à cette offrande avec cœur. Vous savez, quand on imagine le mot cœur, on dit, oh, mais c'est... Vous savez, les enfants, des fois, ils font des petits cadeaux. C'est la fête des pères, aujourd'hui, ils font des petits cadeaux. Et puis on dit, même si on dit à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, on se dit, oh, mais il l'a fait avec tout son cœur. Et on est content de l'accepter parce qu'il l'a fait avec tout son cœur. Et on garde ça adulte. Finalement, des fois, on fait des petites choses biscornues, des petites choses moches, mais on se dit, ou des petites choses rabougries, puis on dit au Seigneur, mais tu vois, je l'ai fait avec tout mon cœur. Mais le Seigneur, il dit, mais moi, je t'ai donné un cœur nouveau. Et je pense qu'avec ton cœur nouveau, tu peux peut-être faire des choses meilleures que ça. Tout son cœur, ça ne veut pas dire limité. Avec son cœur, ça veut dire en considérant ce que Dieu a fait pour moi. Qu'il a, le verset qu'on a lu déjà avant, hein, dit que chacun donne comme il l'a résolu. Vous vous rappelez au début ? Qu'il mette à part, ça veut dire c'est une résolution. Ça, je n'y touche plus. Romains 12, 8 dit, celui qui encourage, qu'il encourage, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec joie. Le service, là on parle du service dans Romains 12, comme dans 1 Corinthiens 12, et là on parle de générosité, d'empressement et de joie. Générosité, empressement, joie. Voilà une façon de donner un peu différente, qui demande à notre cœur un autre état d'esprit, qui demande à notre personne de considérer, voilà ce que je veux vraiment, ce que Dieu est, et qu'il m'accorde quelque chose de bien, qu'il en fasse du bien, avec zèle. Avec zèle. De Corinthiens 8, 7, il est dit, de même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes choses, outre l'amour que nous nous portons, il est marqué, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. Abondez. Abondez, c'est pas être restrictif, c'est au contraire aller un peu plus loin. En plus de ce que vous avez en abondance, 2 Corinthiens 8, 7, c'est avec zèle, pour ceux qui essayent de décrypter, là, j'ai pas fait avec sérieux cette chose-là. Avec zèle, abondez jusqu'au bout. Je me suis engagé jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. C'est ça le zèle. Le zèle, c'est cette notion de solidarité, d'engagement, et non pas de réfléchir en route et de dire « j'ai réfléchi ». Quand nous promettons quelque chose, que ça ne soit pas une promesse qui s'arrête, mais que ça soit une promesse qui aille jusqu'au bout. Paul fait référence à l'ardeur avec laquelle les Corinthiens s'occupent des choses de Dieu. L'offrande que nous passons le dimanche matin est une œuvre importante de Dieu. Les diverses collectes qui sont faites, les diverses participations sont faites avec ardeur, non pas par « encore ». Mais Dieu nous donne un zèle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce zèle, c'est uniquement quelqu'un qui peut nous le donner. C'est Dieu. Transformer notre état d'esprit, transformer notre compréhension, notre façon de faire, notre engagement. Alors un autre point que je souligne ce matin, avec soin. Avec soin. De Corinthiens 8, 20, nous ne voulons pas qu'on nous prenne en défaut au sujet de cette abondante collecte confiée à notre ministère. Paul là dit, nous ne voulons pas que nous nous prenions en défaut. Ça veut dire qu'on trouve dans nos motivations, dans notre façon de donner quelque chose qui n'est pas bien. Pour éviter toute contestation future, tout scandale, et combien à ce qui touche l'argent actuellement dans notre monde, qu'il soit politique, sportif ou laïque, l'argent est souvent source de scandale. Et là, Paul prend toutes les mesures pour permettre à cette abondante collecte d'être réalisée sans qu'il y ait sujet de critique. Frères et sœurs, la façon dont nous gérons notre argent, la façon dont nous rendons à Dieu ce que nous lui devons, nous avons besoin de progresser ensemble. De découvrir, et moi je l'ai redécouvert en étudiant pour le message d'il y a 15 jours, toute l'économie de Dieu. De voir que Dieu ne négligeait personne, prévoyait l'imprévisible, et on a vu même, prévoyait même le temps en famille, le temps familial, le temps de joie. Dieu n'est pas le Dieu qui ferme les choses, mais le Dieu qui ouvre les choses. Et souvent faire comme Dieu l'a prévu est souvent la garantie que Dieu sait. Mais nous aimons changer les rôles. Alors le dernier point, et pas le moindre, avec discrétion. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, on a l'habitude ou dans la religion de faire écrire son nom en disant « j'ai participé à ». Mais nous ne gagnons pas de place au ciel, mes amis. Nous ne serons pas mieux acceptés au ciel parce que nous avons donné plus ou moins ou parce que nous avons eu la grâce de participer. Mais nous ne faisons simplement que ce que Dieu nous demande. Et celui qui inscrit notre nom dans le livre de vie, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le trésorier de l'association, ce n'est pas Jean Capnang, ni un autre. C'est notre Dieu, dans sa grande richesse. Un jour, un pasteur visitait un homme très riche. Et cet homme très riche l'a emmené sur sa propriété. Il lui a dit, voyez là-bas, aussi loin que vous pouvez voir dans cette direction, c'est à moi. Et puis il se tourne dans l'autre direction et il fait les quatre directions comme ça. Il dit, voyez, tout ce qui est là m'appartient. Cette maison m'appartient. Cette voiture m'appartient. Et il regarde le pasteur et il dit, et vous, qu'est-ce qui vous appartient? Alors le pasteur, de mettre son doigt, moi c'est là-haut. Là-haut. Faire avec discrétion les choses, c'est pas être public dans ces choses, mais c'est le faire avec notre cœur, dans le secret du cœur, et Dieu sait. Dieu sait exactement ce que nous pouvons donner, Dieu sait exactement ce que nous donnons, et c'est lui notre comptable. Mais Dieu n'aime pas ces choses que nous faisons pour l'image. Il y a la mise en garde contre la tentation d'étaler notre piété, notre christianisme, en accomplissant certaines œuvres au vu et au su des autres. Jésus ne juge pas les œuvres, mais j'ai mis en gras là leur motivation. Si la justice est pratiquée pour être remarquée par les hommes, cette appréciation humaine sera sa seule récompense. Si c'est les hommes que nous voulons, aux hommes que nous voulons plaire, alors nous plairons aux hommes, mais pas à Dieu. Car Dieu ne récompense pas l'hypocrisie. Et nos vantardises sont souvent des hypocrisies. Parce que souvent, ces vantardises cachent bien des choses. Frères et sœurs, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui, tout en ayant un impact sur cette société, tout en étant la lumière de Jésus-Christ, le faisons avec toute la discrétion que Dieu nous donne. Parce que Dieu regarde au cœur. Il est souvent question du cœur, de la motive. Qu'est-ce qui me motive à faire ces choses? Parce qu'on me l'a dit? Ou parce que la Bible me l'a dit? Ou parce que ça fait bien? Alors voilà, récapitulatif, avec méthode, avec spontanéité, avec joie, avec cœur, avec zèle, avec soin, mais avant tout avec discrétion. Voilà comment donner à Dieu. En se conformant à ce que lui nous a dit. La règle, Paul l'a dit aux Corinthiens, c'est Dieu qui regarde à nos cœurs, c'est sans contrainte, avec joie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 23, Jésus dit « Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » En esprit et en vérité. Que Dieu nous encourage dans ce que nous offrons à Dieu, dans notre participation à son œuvre. Il y a l'Église, il y a les missions, il y a les pauvres, il y a ceux de nos familles qui ont des besoins. Ça demande de penser un peu à l'avance. Ça demande de réfléchir, mais de dire, Seigneur, quelle est la part que tu veux que je donne ? Je veux la mettre à part. Et je ne veux pas faire ces choses parce que tu vas me rendre quelque chose. Mais je veux faire ces choses pour que toi, tu accomplisses quelque chose avec. Et quelque chose de grand. Quelque chose qui va peut-être permettre à quelqu'un dans la rue d'être nourri, peut-être à quelqu'un de rencontrer Jésus-Christ. Mais en tout cas, à partir du moment où je mets cette somme à toi qui maintenant en deviens le gérant, ce n'est plus moi. Que Dieu nous encourage à être ces hommes et ces femmes qui non simplement ont changé de destination, non simplement ont changé de style de vie, mais aussi ont adopté leur économie à l'économie de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta provision, parce que c'est toi qui nous donnes. Seigneur, nous réalisons, parce que la Bible nous le dit aussi, que tout ce que nous avons vient de toi, que nous ne le méritons pas, et que vraiment tu le fais avec grâce, avec miséricorde, mais aussi avec fidélité. Et je veux te prier, Seigneur, ce matin, pour nos frères, nos sœurs, qui sont dans le besoin. Nos frères, nos sœurs qui ont peut-être très peu de moyens. Je te prie aussi pour ceux qui en ont plus. La Bible nous montre que nous devrions être là pour vérifier que chacun ne manque de rien. Et Seigneur, toi, tu pourvois en tout. Tu pourvois pour la nourriture, tu pourvois pour le vêtement, tu pourvois pour le toit, tu pourvois pour nos provisions, pour l'emploi. Et Seigneur, nous ne voulons pas être des ingrats, nous ne voulons pas être des avares, mais nous ne voulons pas être non plus des hypocrites. Alors je veux te prier ce matin, pour chacun d'entre nous, que si nous avons des choses à rectifier dans l'économie, dans l'organisation, dans la gestion des choses que tu nous donnes, eh bien que tu nous l'apprennes. Et que si certains ont besoin d'aide, peut-être certains ont besoin d'aide, que dans la discrétion nous puissions les aider. Que nous puissions, pour ceux qui ont ces dispositions, leur donner des conseils. Et puis pour ceux qui ont des biens et qui peut-être aussi les dilapident, Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu leur donnes sagesse. Sagesse parce que les choses que nous avons ne sont pas nos biens, mais les tiens. Et tu veux nous apprendre à les gérer. Alors ce matin, là où vous êtes, et on ne lève pas la tête pour regarder qui lève la main. Si vous êtes dans la difficulté, si l'organisation de vos finances vous met des obstacles, alors que nous puissions vous aider, que Dieu puisse vous aider. Oui, j'ai vu une main déjà. si vous avez besoin de conseils pour que Dieu vous aide à gérer ce que Dieu vous donne. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Oui, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. C'est difficile, n'est-ce pas, de bien gérer. Et des fois, on n'a pas eu les bases, on ne sait pas bien, mais on a des frères et sœurs qui peuvent nous aider. Et on a surtout notre Dieu qui peut nous conduire dans la sagesse, dans l'organisation. Et puis si Dieu a besoin de changer nos cœurs pour que nous devenions généreux, pour que nous soyons moins restrictifs, tout en restant sages. Je veux prier aussi que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes généreuses dans notre, non simplement dans la gestion de notre argent, mais dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos dons, pour que Dieu en soit bénéficiaire, parce que c'est lui qui nous l'a donné. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Oui. Oui. Oui, Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées. Ce sont des frères et sœurs qui admettent avoir des difficultés, des problèmes dans la gestion de leur temps, dans la gestion de leur argent, dans la gestion des biens que tu leur donnes. Ils appellent au secours, Seigneur, ce matin, et tu nous donnes la sagesse ensemble de voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'ils aillent mieux et pour que aussi toi tu les aides, parce que tu es leur Père. Merci en tout cas pour l'occasion de présenter ces choses avec simplicité, avec authenticité, et que ça soit toi qui en sois l'utilitaire, au nom de Jésus-Christ. Amen.